Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue donc à l'occasion de cette table ronde autour du corps dans la science-fiction chinoise. On nous a demandé un peu modérateur à essayer de faire la transition avec les tables rondes précédentes. La table ronde précédente portait sur les insectes dans la science-fiction et dans la science comme modèle social. Évidemment, difficile de faire la transition avec le corps dans la science-fiction chinoise. Deux transitions, une relative à une création science-fictionnelle chinoise et puis l'autre un peu plus amusante, mais qui va aussi nous introduire au thème qui sera traité aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là à la table ronde tout à l'heure, on s'était interrogé sur l'appropriation du mode de vie des fourmis dans la science-fiction. Il existe un roman chinois, La vie des fourmis, par un auteur qui s'appelle Wang Jingkang, qui date des années 80, des années 90, pardon, et qui imaginait qu'au plus fort de la période maoïste, dans une petite communauté, avait été extrait un sérum d'altruisme à partir des fourmis pour le greffer sur la population humaine et donc accomplir le rêve maoïste d'altruisme absolu, ce qui évidemment débouche sur une dystopie. Voilà pour la première transition. Et puis une deuxième transition, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Je ne m'imaginais pas forcément citer Edith Cresson aux Utopiales 2018. Vous vous souvenez peut-être, Edith Cresson, qui avait, lors d'un voyage de retour du Japon, affirmé que les Japonais étaient un peuple de fourmis, ce qui avait évidemment plu beaucoup aux Japonais, mais qui représentait une certaine forme d'orientalisme. Et c'est de ce dont il sera question pour les premières questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le débat autour du corps dans la science-fiction chinoise, et ce que peut être, et si la question posée de ce qu'est le corps oriental est pertinente, simplement pour présenter les différents intervenants aujourd'hui, alors dans l'ordre, Zhu Zhenxi, qui est donc à la droite, qui est l'un des fondateurs de la fondation donc Science and Fantasy Growth Foundation, donc la fondation pour le développement de la science et de la fantasy en Chine. Fondation créée pour aider au développement de la science-fiction et de la fantasy, et dans ses rapports avec également les nouvelles sciences et les nouvelles technologies, et qui organise tous les ans à Shenzhen la grande convention de science-fiction chinoise, donc les Utopiales chinoises. À ses côtés, Xiao Mei, qui elle aussi est fondatrice l'une des fondatrices de cette fondation, et qui s'occupe en particulier de la partie art plastique, d'où la petite exposition que vous avez à gauche en entrant aux Utopiales autour de l'imaginaire oriental. Exposition dans laquelle vous pouvez retrouver des œuvres de Ford Hu ou Hu Te, qui est lui-même artiste plasticien, qui a reçu de nombreux prix pour son travail, artiste dans le domaine et dans l'imaginaire de la science-fiction et de la fantasy, qui vit actuellement à San Francisco et qui travaille pour l'entreprise Lucasfilm. Ça vous dit peut-être quelque chose. Alors j'ai essayé de lui soutirer des informations sur le prochain Star Wars sur lequel il travaille, mais évidemment, confidentialité oblige, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous. Et puis, à ma droite, Zhang Ran, jeune écrivain de science-fiction chinoise, auteur de nouvelles, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Également lauréat de nombreux prix de science-fiction, des prix les plus conséquents et les plus prestigieux en Chine, et que certains annoncent comme le futur Liu Cixin chinois. Un peu la pression pour ceux qui connaissent. Voilà un petit peu pour les différents intervenants qui échangeront avec nous aujourd'hui, et donc moi-même, Gonel Gaffric, qui me chargerai de la modération et de l'interprétariat des réponses données par les différents intervenants. Vous avez dû le remarquer sans doute, dès que vous entrez dans cet espace des Utopiales, on est directement confronté à la question du corps et de l'ethnicisation des corps avec cette affiche de Bebdom, qui pour certains est une manière subversive d'aborder la question de l'ethnie et de la représentation du corps ethnique, et pour d'autres peut véhiculer une certaine forme de stéréotype sur l'idée d'un déterminisme du corps, corps occidental, corps noir, ça a été présenté ainsi, on n'est pas du tout sur la même échelle quand on parle d'occidental noir, d'oriental ou d'asiatique. Ce qui nous interpelle, alors on peut être critique ou on peut être élogieux, mais peut-être pour commencer notre débat, poser la question à nos intervenants de ce qu'ils peuvent comprendre comme corps oriental. Est-ce qu'il y a un corps oriental? Est-ce que ça signifie quelque chose? Et de quelle manière éventuellement cette idée de corps oriental peut se retrouver dans leur travail, mais surtout peut-être pour commencer dans l'exposition que vous pouvez aller voir aux Utopiales. 那可能其实刚刚讲到说他们一进来就会看到这种身体的表象，那其实也可以让我们探讨，这个所谓的东方的身体，那是不是可以请你们谈谈，对你们来讲有没有一个所谓的东方的身体，那怎么样呈现在这次的展览中？可能小美女选。
我是科学与幻想成长基金。 陈星威美术科幻大赛的这个主要负责人。那么一直以来呢，我们东方人的这个科幻艺术其实是比较少的，能够被我们欧洲的这些广大的科幻迷所了解。所以本次呢，我们非常有幸，而且很荣幸的接受这个南特国际科幻节的邀请，把我们科幻基金 过往几年的中国的优秀的科幻艺术家和科幻艺术人才他们的绘画带到了南特，当然其中也包含就是我们今天这个科幻节所谈到的这个身体的这个主题，那么我们会慢慢给大家讲解。
Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je présente la section des arts plastiques, de l'art visuel au sein de la Fondation pour le développement de la science-fiction et de la fantasy en Chine. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter cette exposition avec des œuvres de différents artistes, encore peu connus sous les latitudes françaises, mais qui traitent notamment de cette question du corps dont je vais parler dans quelques instants.
那我们这次非常荣幸呢，也请到了我们中国在科幻界非常知名的著名作家张冉和我们中国科幻圈里面科幻影视圈里面，怎么讲呢？蜚声国际的一位世界级的这个艺术大师胡特。那么他呢，他们的作品呢，其实可能大家并不了解，但是我们今天在中国展区有他们的这个作品，还有 张冉先生的一些著作，我们也带过来了。到时候请这两位可以单独的给大家做介绍。
Donc, parmi les différents artistes représentés, nous sommes particulièrement honorés donc, d'avoir à nos côtés Zhang Ran, donc jeune écrivain, et Houtre, donc Ford Wood. On pouvait voir défiler quelques images que j'ai sélectionnées en fonction un peu du thème, mais vous en trouverez beaucoup d'autres, notamment sur son site web, qui peut-être lui pourra nous parler de la question du corps plus précisément et de sa représentation du corps. 那么，胡特先生是不是也可以请你谈谈这个所谓的东方身体，对你来讲的？
其实我个人觉得东方的身体可能唯一跟西方不一样的东西，可能是，根植于中国传统的一些东西，比如说，像中国人有所谓的经络，然后还有所谓的一些血脉，就是点穴，对吧？那这样东西其实我们是根据我们这个整个一个传统的这种文化的体系所构建出来的这个身体。 它可能不是像西方这种科学意义上的解剖学意义上的身体，对，所以会比较不一样一些。我们更倾向于一个整体的一种概念。
Une des différences qui peut exister entre le corps oriental et le corps occidental, c'est plutôt dans la représentation, dans la perception de la structure corporelle. En Chine, traditionnellement, et ça se retrouve dans la médecine chinoise, le corps est organisé en fonction de fluides, d'une circulation bien particulière et d'une sorte d'intégralité du corps en tant que système de circulation. Plus que véritablement l'aspect physique du corps, c'est plutôt la représentation de la manière dont fonctionne le corps qui est différente. 那在你的作品中，这有没有呈现出来 ？Une question sur la manière dont cela peut transparaître à l'intérieur des œuvres de Houtre.
其实我的作品中间很多的东西，会呈现出来，所以你可以看到我的很多作品中间，实际上是根据古代的中国古代一些文献，包括中国古代一些想象，然后加以现代的一种变形和现代的表达。 因为我个人本身是我是接受了东西方的教育，而且我又是在美国接受了很长时间的计算机的训练，包括视觉上的训练，那我就会觉得是说如何将西方的一些未来的一些构想 然后和东方的传统的这些思想和结合在一起。所以你可以看到像这几幅作品，明显的就是典型的西方的表达方式，但我的内在仍然是东方的。
En ce qui me concerne, j'ai reçu une bonne partie de ma formation aux États-Unis et l'une des ambitions que j'ai, c'est d'intégrer des éléments propres à la culture ou à la tradition chinoise à l'intérieur de, d'œuvres ayant aussi attrait avec une certaine vision du futur occidental. Ce qu'on peut retrouver dans certaines des œuvres qui sont présentes, c'est à la fois l'utilisation de concepts, de procédés, de manières de représenter le futur dans un contexte occidental, mais en essayant d'y intégrer au maximum des éléments propres à la culture chinoise.
我补充一下啊，就是，探讨东方的这个肉体跟这个 body 的这个点的时候，我们很多时候中国人在这一块的想象呢，它往往是两面的。就比如说肉身，我们一定对应的是灵魂，然后我们对应的阴就是对应的阳，对应的虚就会对应的实。那中国人在对肉体这块的，比如说锻炼，我们跟西方人的差别在于，西方人锻炼的时候，很多时候练的是什么？身体的反应力、肌肉、强度。我们在中国人很多玄学里面就叫外功，但中国人去锻炼身体的时候，经常要讲内功，就是我们刚才胡特说的经脉。然后脉络，这些就是我们就是在这个熊猫那个功夫熊猫里面讲的气啊。所以说在理解中国对肉体的就是身体的这部分表达的时候，其实很多时候它是两面的，它探讨的一定会结合另外一面来去探讨。但中国人可能更相信这一点，但是我们这次带来的展览里面体现出来的这个在美术上面体现出来的这部分形象呢，是因为中国的科幻美术最早期还是受到西方的影响比较大，所以呢很多时候会显得更接近西方一些。那可能希望如果是探讨这个角度的话，我们明年可以带来更多中国能展现东方文化的这个认知的，那其实在中国这叫玄幻啊，是这个领域。
Effectivement, pour compléter un petit peu ce qui a été dit sur la question du corps, souvent on a aussi, comme on peut l'avoir en Occident, cette binarité entre corps et esprit. Ça se retrouve particulièrement dans la littérature, notamment des arts martiaux, wuxia, avec l'idée d'une force et d'une puissance qui s'exprime à travers le corps extérieur, qu'on associe parfois au concept de yang. Également avec ce qu'on peut appeler le neigong, la force intérieure, ou le souffle intérieur, qui est associé plutôt à l'esprit et au yin. Ce qu'on peut trouver d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le qi donc dans Kung Fu Panda, par exemple. Dans les expositions que vous avez ici avec les œuvres présentées, on a effectivement un imaginaire qui est peut-être plus proche de ce qu'on peut retrouver en Occident. Et peut-être que l'an prochain, on essaiera d'amener des œuvres qui justement mettent en valeur cette idée de la force intérieure et de la manière dont le corps intérieur s'exprime, ce qui forme aussi un genre de science-fiction et de fantasy en Chine qu'on appelle, alors c'est un petit peu, c'est pas évident à traduire, mais la fantasy orientale ou la fantasy magique orientale.
然后我们今天带来的几位这个作家的作品哈，就是比如说徐天华老师的作品，他可能他根植的想象力的空间可能还会涉及到东方其他的领域，不仅仅是中国。但是鲨鱼丹的作品可能就会更基于中国化的基础多一点啊，因为他一直是中国科幻世界的最主要的这个首席画家啊，大家可以看他们的作品的时候能够了解得到。
Vous avez par exemple dans l'exposition en question les œuvres de Dan Requin, qui est effectivement plus prolixe et plus intéressé par cette question de la culture chinoise traditionnelle et de cette représentation traditionnelle chinoise. Alors peut-être pour poursuivre sur la question du corps dans la science-fiction, dans l'histoire de la science-fiction chinoise littéraire, vous avez pu voir passer différentes images qui correspondent pour certaines, là, par exemple la Cité des chats de Lao She qui date des années 30, des ouvrages qui représentent un petit peu le corps aussi, savoir un petit peu dans l'histoire, dans le développement de la science-fiction chinoise, notamment moderne, à partir du début du XXe siècle, les manières dont le corps a été traité, que ce soit dans un sens transhumaniste, du côté des cyborgs. Donc peut-être poser la question à Zhang Ran de nous parler un petit peu de ces représentations du corps dans la science-fiction littéraire, pour le coup.
那至于文学，就中国的科幻文学上身体的肉体的表现，是不是可以请你讲几句？那其实我们也看到有一些书的方面。
好，谢谢。那我刚接着这两位的来聊吧。大家对中国的这个印象可能来自于一些影视作品、小说和政府的宣传，可能大家不是特别了解我们这个东方国度的这个思维方式。 中国一直以来是有玄学传统或者说叫神秘学传统的，它的传统的惯性之大就导致呢，在一些实证科学发现跟传统相抵触的时候，我们愿意相信传统的力量。最典型的就是刚才说的经脉这种中医学理论，它跟近代开始的这种解剖学肯定是 有抵触的，但是中国人中医理论选择了相信解剖学发现不了经脉这个东西，不是因为我们的解剖结构告诉我们没有经脉，而是经脉这个东西太细微太玄，我们现在的西医学是发现不了的。所以这个在思维方式上东方跟西方是有一点本质区别，就是我们天生就愿意相信这种实际上不存在的事物。
Alors pour compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure au niveau de la représentation des fluides, des souffles à l'intérieur du corps, c'est vrai que c'est une représentation traditionnelle qui a longtemps existé en Chine, qui a servi notamment à construire le système de ce qu'on appelle la médecine chinoise traditionnelle, et qui est aujourd'hui remise en question par la science occidentale, la médecine occidentale, puisqu'il est plus difficile de prouver l'existence de fluides, de souffles à l'intérieur du corps. Et on se retrouve dans une situation, c'est représenté également dans l'histoire de la science-fiction, de cette opposition ou de cette confrontation entre représentation du corps traditionnel et arrivée des sciences modernes occidentales.
比如告诉大家一件我们中国人看起来很习惯的事情，但是外国人看来就不太容易理解，是当我们小的时候，大概从90年代开始，中国的80、90年代开始在中小学推广一种眼保健操，就是针对眼部的穴位进行按摩，用来增强视力的。这个在东方文化圈以外应该是难以理解的，所以等一下我可以带大家演示一下，找一下自己脸部的穴位，就是看东方的这个神秘的中医的穴位图在西方是不是一样的适用。
Alors, un exemple, par exemple, de cette représentation du corps et de la médecine en Chine qui est en fait assez courante en Chine, mais que vous trouverez peut-être bizarre ici en France. On a l'habitude depuis les années 80-90 dans les collèges et dans les lycées chinois de faire des exercices de massage du visage pour améliorer la santé. Donc je peux vous donner quelques idées et vous entraîner à ce massage du visage et vous allez voir si cette science un peu mystérieuse peut marcher chez vous.
On
va apprendre deux types de massage. Voilà, votre pouce sur votre tempe. Il faut que votre index caresse ou en tout cas appuie sur vos sourcils.
如果速度够慢的话，你能找到在眉弓的这个位置有一个稍微凹陷下去的点，这是我们的一个穴位。
Donc, si vous faites attention, il y aura un endroit au niveau du haut de votre sourcil qui sera un peu en creux. Et ça fait partie de ces différents fluides, enfin c'est au bout d'un des fluides chinois.
按压这个穴位的话，你会觉得有一点酸痛的感觉，跟其他部位是不一样的。那说明你找到了。
Donc peut-être que vous trouverez un endroit où, en appuyant, vous aurez un peu plus mal que d'autres. Il y a un endroit particulier sur lequel vous éprouverez une douleur un peu plus intense que si vous appuyez sur le reste.
好，记住了吗？第一式，第二式是这样，在下面这个穴位大概是眼睛下方的中间一点，这里有一个穴位，大家找一下，同样的感觉。
Donc là encore, en dessous de l'œil, vous avez donc sous l'œil un endroit où vous allez sentir un petit peu la même chose, un léger creux, et en appuyant, vous aurez légèrement plus mal qu'aux autres endroits.
在很长一段时间内，中国的中小学在课间时间都是这样，所有的学生坐在桌前，然后再进行一整套的眼保健操，为了想让自己的视力增强。
Voilà, et donc c'était utilisé, et c'est des pratiques qui sont encore utilisées dans les collèges, dans les lycées chinois, pour améliorer la vision et pour améliorer la vue des étudiants, des élèves.
现在你们都学会点穴了。
Voilà, donc vous avez tous appris, maintenant vous pourrez reproduire à votre tour chez vous. Alors justement, en parlant de cette question du langage et de l'utilisation des doigts, c'est intéressant dans le cas de l'œuvre de Zhang Ran, qui, dans le cas d'une série de nouvelles consacrée à... Alors, la série de nouvelles en question tourne autour de la ville grise. Alors, c'est une série de nouvelles dystopiques. Et parmi ces nouvelles-là, une nouvelle en particulier, Ether. Donc, imagine une société dystopique dans laquelle l'information est extrêmement contrôlée. Et le seul moyen, finalement, de pouvoir communiquer sans être contrôlé, sans être surveillé, sans être épié, c'est un langage à partir des doigts. Donc je vais lui demander de nous en parler un petit peu, justement, sur cette corporalité du langage, qui est peut-être le seul moyen d'échapper au contrôle de la communication. 那讲到手指的语言，那也可以提到你这个以太这篇小说的这个手指聊天，是不是可以请你讲几句？
是我有一篇小说叫以太，然后讲的是它是算一个反乌托邦小说，讲的是在未来的某一个时间之内，我们的生活的这个城市这个国家开始对人们的所有发出的信息进行严格的监控，这个监控不止从网络开始，也延伸到我们生活的每一个层面，从电视广播这种公众媒体乃至到人和人之间的交流，最后发展到他们在空气中散布了一种纳米机器人，这种系统叫以太，它可以改变人跟人之间对话的这个音波的频率，从而改变你听到的声音，而且可以改变光在这种物体表面的折射率，从而改变你肉眼看到的东西，也就是说在这个环境之下，你看到和听到感知到的所有东西可能都是虚假的，是这套系统给你创造出来的。
Pour dire quelques mots sur cette société dystopique, donc futuriste, dans une société où tous les moyens de communication, mais que ce soit les moyens virtuels ou numériques de communication, que ce soit Internet, que ce soit la radio, la télévision, mais également les rapports plus charnels de communication avec la voix, sont contrôlés, notamment par l'intermédiaire de nanorobots qui vont permettre de modifier les communications orales, la réalité visuelle. Et donc tous les moyens de communiquer, d'échanger entre individus est soumis à un contrôle permanent.
这种情况下，唯一可以信赖的知觉只剩下触觉。如果我们只能用触觉来传递信息，那么有什么方法呢？反抗组织想到一个方法，就是在别人的手心写字。如果我们两个人是彼此信赖的，然后我们拉起手来，在对方的手心写字，把这个字通过触觉传递给对方。这时候，以太系统是没法对这个信息进行造假的。
Et le seul sens, la seule sensation qui est incapable de, d'être contrôlée par les fameux nanorobots dont il était question, c'est la sensation du toucher. Et l'une des solutions pour les personnes qui souhaitent sortir ou qui souhaitent en tout cas être en dehors de ce système de contrôle permanent de la communication, c'est celui d'utiliser une technique qui est en fait bien connue des Chinois, peut-être que Jean-Lan nous en reparlera tout à l'heure, c'est de tracer des caractères dans la paume de la main. Tracer des caractères avec son doigt dans la paume de la main. Et c'est, dans la nouvelle en question, le seul moyen que trouvent les individus pour communiquer des informations entre eux, en passant par le fait de tracer un caractère dans la main. 那这个手指的沟通的方式，其实中国已经有的这个，就是在手心上画字的这个习惯，是不是可以进行讲几句？
有吗？
就是说，我的名字叫什么，然后我帮你写。帮你画在手心上，
会有这样的游戏，就是我们会在对方的手上或者身上写字来让别人猜这个字，但是通常准确率不会很高了。
Alors effectivement, c'est un jeu qui existe. Par exemple, nous, on peut trouver ça. Vous connaissez sans doute ce jeu où on écrit dans le dos de quelqu'un une lettre qu'il faut reconnaître. En Chine, il y a ce jeu voilà, d'essayer de deviner un des caractères qui est tracé dans votre paume. Alors évidemment, l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous, mais j'imagine dans cette nouvelle que c'est un moyen alternatif de communication. 那因为提到这个是虚构的小说，那对您这个信息传达的系统也是。因为我们现在的状况觉得很悲观嘛，好像只有肉体可以超越这个信息的监控。
对，因为我原来的本职职业是记者，是在一个比较大的报社做报道的，所以呢，经常会看到一些东西是我们就是身为一个中国人比较悲观的。这个大胆来说，可能是跟中国的国情是有特殊关系的。嗯，话可以说到这儿，因为这种悲观的感触，所以才衍生出这部作品。但是我相信，在我们有生之年，中国不会变成那个样子，因为中国其实现在的开放程度比很多人想象的是要更加开放的，它不会朝那种更加自闭、更加独裁的方向去走。所以呢，我个人是一半悲观，一半乐观。悲观的是未来有一天，人类这个层面真的有可能，当科技发展到一定程度到达了那种监控的这种地步，但乐观的这一方面呢，是我们有生之年应该看不到那一天来临。
Alors, la question était posée sur justement son rapport. Évidemment, c'est une œuvre de fiction, mais la question était sur son pessimisme éventuel, sur le système justement de contrôle des communications, en particulier en Chine. Donc la réponse de Zhang Ran. Donc j'ai été journaliste avant de commencer à écrire des nouvelles. Et effectivement, ce pessimisme, je l'ai ressenti de plein fouet avec le contrôle des communications, notamment dans le cas de la Chine et d'une liberté limitée. Ce qui a débouché sur la volonté d'écrire cette nouvelle autour de cette question et du seul moyen de communiquer ou de passer des informations qui ne soient pas contrôlées à travers le corps. Je suis aujourd'hui à la fois mitigé entre pessimiste et optimiste. Pessimiste dans le sens où je vois que le développement de l'humanité va vers, vers davantage de contrôle, notamment entre la communication, entre les individus. Et optimiste aussi, parce que je ne vois pas à très court terme l'arrivée d'une telle société dystopique, y compris en Chine, où le degré d'ouverture est peut-être plus grand que ce qu'on peut parfois imaginer en France. Peut-être une question à Routre, justement. Comment est-ce qu'on peut utiliser le corps et de manière générale l'art pour faire passer des messages politiques ?
那你自己在你的作品中会又想要传达一些可能政治或是社会的一些信息吗？或是一些想法吗？
对我个人而言的话，作为一个艺术家来说，肯定是你会思考这方面的问题。但我就我个人而言，我觉得人应该看得更远一点。我们不要把自己的思想太局限于东方和西方，而且我本人，因为我本来就是在硅谷，所以，大家也都知道 Google 在干些什么，对吧？所以，其实未来就光技术层面上来讲，我相信人在未来5到10年之内，整个一个我们人的生产方式，就是人的生，就是从生产力和生产方式来说，都会有一个根本性的改变。未来到底什么才是生活，什么才是生命，什么才是工作，都可能会因为随着技术的革命而产生新的变化。我们可能是在这里假想一些可能的场景，但实际上真正的研究和科技的进步已经在一定程度上已经完全改变了人的一些东西。所以在我的本身的作品中间，我会尽量的会去想说，那么未来到底会是什么样子，对吧？那我们也从来，我个人来说也不会就只从肉体上的这个层面上，因为有可能的话，今后人的精神跟肉体是分离的。
Effectivement, en tant qu'artiste de science-fiction, y compris artiste visuel, notre position, c'est aussi de nous projeter dans l'avenir, d'essayer de voir plus loin que la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Moi-même, je travaille dans la Silicon Valley, donc je sais très bien ce qu'est en train de faire Google, et je sais très bien à quel avenir on peut aussi être destiné dans un avenir proche, y compris dans moins de 10 ans. Nos manières de vie, nos manières de travailler, nos manières d'exister vont être complètement bouleversées, perturbées par la technologie. Ce qu'on peut essayer de faire en tant qu'artiste, c'est pas forcément d'anticiper, mais d'arriver à réfléchir sur cet avenir qui nous attend peut-être, en dépassant aussi les anciens clivages tels que ceux dont on a parlé autour de la question de l'Orient et de l'Occident, réfléchir sur le corps, sur ce que les technologies peuvent aussi permettre au niveau du corps. Donc c'est aussi notre position d'artiste de réfléchir à ces questions-là. Alors on parlait un petit peu du corps, donc on en parlait beaucoup du corps et de la question de la transcendance du corps, notamment par le biais de la technologie. Peut-être une question sur la question d'immortalité, qui a longtemps été une recherche en Chine, alors pas uniquement dans le cadre de la science-fiction. On raconte par exemple que le premier empereur chinois, Qin Shi Huang, c'était au 2e siècle avant Jésus-Christ, est mort pour avoir ingéré un élixir d'immortalité. Et donc la recherche d'un élixir d'immortalité est quelque chose de très ancien en Chine. On raconte qu'un poète des Tang, par exemple, est aussi mort, Li Bai, en ayant ingéré du mercure qui était supposé être dans l'élixir d'immortalité. Peut-être savoir, à la fois replacé dans le contexte historique de la Chine et dans la science-fiction, comment se décline cette recherche d'immortalité depuis donc l'histoire ancienne jusqu'aux transhumanistes d'aujourd'hui, qui sont en fait un peu les mêmes en Chine que dans les GAFA. Donc voilà, peut-être cette question autour de la question de l'immortalité.
就刚刚讲到这种永生的这个追求，其实在中国古时代也有很多就是寻找永生的，包括秦始皇帝，他可能也是因为寻找永生而死。那一直到就是现在的这种超人主义的这个追求，在中国有钱人，那其实跟美国有钱人也是一样，想要超过死亡。那是不是可以请你们谈谈这个对永生的追求，不管是科幻或是社会中的？朱先生，
其实我们刚才探讨了，就是在中国的，我觉得想象力文学或者创作当中对于这个身体的这个解读，其实很多中国有很多，比如说我们说的金刚葫芦娃，还有这个我们说的那个以前什么千里眼、顺风耳，然后这个铁铜墙铁壁，这些就是铁壁啊，铁壁这些就是都是中国人对于身体的某一种想象啊。比如说我们可以看到眼睛发展到极致，看到一千里以外，然后这个首先我就补充一下刚才说的问题啊，就是说在我们目前我们中国的这个科幻文学当中，其实对于身体的想象是很多的，只是可能这是基于想象力的某一种，但不是近代比如说冉爷他们这科幻文学的这一部分了啊。但是当他们冉爷的创作可能就是说基于科幻文学这一部分的时候，基于现在的科技本身，然后又进行了新的探讨，包括对信息的控制啊，对信息的了解，他是从这个层面去了解的啊。可能这是冉爷对这一些身体的一些想象，或者是信息传递的一些想象。那可能我们刚才探讨的更多的是中国，包括永生啊这些话题，更多的是中国这个以前传统哲学里面，包括以前徐福啊，就是那个秦始皇寻找长生不老的药，现在人有没有在尝试呢？依然在尝试啊，包括我们说中国生物科学基因，我们都知道华大基因这样的一家中国的公司。那前不久，华大基因曾经说过，在让希望华大基因的公司里面每一个员工至少活到100岁以上。我相信这是每一个对于长生这样的一个议题，是这是世界上所有的科技的公司对于人类寿命的这个追求，是很多科技公司在致力于去解决的问题。中国一样在做这样的事情。
Effectivement, dans l'histoire de la Chine, dans l'histoire mythologique chinoise, on a un certain nombre de surhumains entre ceux qui peuvent voir à plus de 1000 km, ceux qui ont des bras d'acier. Donc cette idée du surhumain ou de l'humain augmenté, elle existe aussi dans la mythologie et dans les légendes populaires. Évidemment, c'est des questions qui se retrouvent au centre de la science-fiction. Et au-delà même de la science-fiction, un certain nombre de grandes entreprises chinoises aujourd'hui, il en est une en particulier, qui s'applique à faire des recherches dans le domaine de la médecine et qui a par exemple pour leitmotiv celui de permettre à tous ses employés de vivre jusqu'à au moins 100 ans. Qui est l'un des objectifs à atteindre. Et effectivement, aujourd'hui, comme aux États-Unis ou comme dans d'autres endroits, on a des entreprises, des entrepreneurs qui se donnent comme objectif de poursuivre, non pas forcément la quête de l'immortalité, mais en tout cas la quête d'une longévité plus importante.
只是说差异在于我们现在理解的古代，比如说秦始皇他们去追求长生的时候用的是药丸，或者是用的很多其他的方式，我们觉得可能是不科学的，可能基于我们说某种程度上基于一些错误的这个中医理论。当然中医理论当中也有很多正确的科学性的地方，甚至实验取得效果的地方，只是说现代中国人在去追求这一部分的时候，更多的用是科技的手段，比方说中国的基因科学，中国的干细胞的研究，这也是在世界上都相对来说比较领先的啊，或者说它的数据采集都比较宽一些，包括中国在研究大数据云计算，这些通过科技的方式让人类跟机器更多的去进行融合了。所以我们基金和中国的很多科幻作家在探讨的时候说，可能这是人类一个共同的议题，未来把人类的身体变得更接近于机器，同时把机器变得更像人啊。
Effectivement, une différence qu'on peut noter cependant entre les recherches de l'élixir d'immortalité dans la tradition taoïste notamment, mais dans le cas du premier empereur chinois, qui était une recherche basée essentiellement sur les plantes et sur la médecine chinoise, avec ce que la médecine chinoise a pu commettre comme erreur scientifique dans le passé, ce qu'elle a pu aussi avoir de correct dans la manière dont elle percevait la maladie. Et aujourd'hui, changer dans le paradigme contemporain avec l'utilisation de la biotechnologie, de la biogénétique, de la technologie au service de la recherche d'une longévité. Par exemple, on en parle souvent dans la science-fiction, l'idée de fusionner le corps avec la machine. C'est une des questions qui est notamment traitée dans le cadre de notre fondation, qui s'applique à faire dialoguer la science-fiction avec les sciences et la technologie, où on s'interroge sur ce destin peut-être commun pour l'humanité de fusionner ou de se greffer des implants mécaniques pour vivre plus longtemps.
但是可能我个人对身体这个看法，我觉得我们去探讨身体这样的议题的时候，更多的是回归自然，而不是用去科技去是改变这个自然生态的这一部分。我认为人的生命是因为有死亡，有长有短， 有这些不同的变化和变数在，生命才会很有乐趣，否则的话生命就不会那么有乐趣了。所以我们探讨身体的时候，很多时候有一些人可能更期望是回归自然的那一部分， 我也是这一类人。
Pour mon point de vue personnel, en revanche, moi je suis plutôt inquiet justement de cette technologisation des corps à outrance, et je suis plutôt pour revenir à ce qu'est la vie, à savoir dans son incertitude, dans sa durée, parfois inégale. Et il y a voilà, aussi ce mouvement de retour vers quelque chose de plus naturel et dont je fais davantage partie.
刚才说到长生，其实长生呢，我们现代人都知道，如果人类真的有一天发展出了长生的技术，那么肯定会带来一系列的社会问题，其中包括资源的紧缺，因为人类的寿命很长，包括一些伦理学的问题，等等，这些其实我们的老祖宗在很多年前都想到过。所以接下来我可以跟大家聊一下中国古代就是思想哲学方面对人体身体灵魂跟生命的这个认识。
Alors effectivement, cette question de la longévité à venir par le biais de la technologie n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. C'est un problème éthique, évidemment un problème de ressources aussi, si tout le monde se met à vivre plus longtemps. C'est des questions qui ont déjà été posées en réalité dans l'histoire de la Chine, dans l'histoire de la philosophie chinoise, dont je peux vous parler en quelques mots.
大家知道中国是一个没有法定宗教信仰的国家，但并不是说所有中国人都是共产主义者，这是两回事。中国人，普通民众普遍的信仰是民间道教和民间佛教，他们不是很严格的信仰，只是吸取了这个宗教信仰中的一部分。
Alors, comme vous le savez peut-être, en Chine, la religion s'exprime pas de la même manière qu'en Europe. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est communiste en Chine. Il y a dans les religions populaires, notamment l'influence des religions taoïstes et bouddhistes, qui ne sont pas forcément des religions au même sens dans lequel on les entend dans l'histoire de l'Europe.
我们先说佛教，很多中国人他友善的部分来自于佛教的教义，因为佛教的教义一句话总结就是不修今生修来生。我们修的是按照因果论，你在此生做的所有善事会变成你下世的福报，所以呢，身体对佛教徒来说是无足轻重的。大家会看到有一些苦行僧，或者是在庙里的和尚，整天吃素、打坐、修行，他们过着很艰苦的生活，但是他们不以为意，为的是在下来生能够得到解脱跟幸福。所以佛教的观点，人死之后会堕入轮回，你的躯壳只是一个皮囊，它是不重要的。你的灵魂根据你这一生所做的善事和恶事，会进入轮回，进入下一个躯壳，乃至有一天你佛教的最高境界，当然就是超脱于轮回之外了，对吧？我们不再堕入轮回，这是佛教的观点。在佛教来说，我们身体并不重要。
Dans le cas, par exemple, du bouddhisme et des cycles de réincarnation, le corps n'a pas cette importance qu'on peut avoir ou qu'on peut retrouver dans les questions contemporaines sur l'immortalité des corps ou sur le fait de vouloir transcender le corps pour vivre plus longtemps. Vous verrez dans certains temples bouddhistes des moines ou des disciples ou des croyants bouddhistes qui mettent à mal leur corps, que ce soit dans la méditation ou même dans les souffrances infligées. L'idée qui est derrière le bouddhisme, c'est que on doit mettre fin à un certain nombre de vies successives pour cesser une souffrance. Et la fin de ce cycle de réincarnation perpétuelle ne va prendre effet que dans une relation de cause à effet entre ce que vous aurez fait dans votre vie et de ce que votre esprit aura fait dans cette vie et qui aura une influence et le karma sur la vie, votre vie future.
好，接下来讨论道教。道是可能国际上对中国比较认可的一个通用符号了，但是道在中国来说应该分三个层面。第一是道家，道家是从先秦时期老子创立的，老庄学说创立的，它奠定了道家的基本思想。其次呢，然后在后汉东汉的时候，张道陵张天师创立的那个叫道教，它比道家的出现要晚很多。道教是采用道的思想树立了一种宗教形态延伸下来，然后第三个层面就是中国民间的这个信仰，民间的道家信仰，它不会被归为道的内容之一，但是它的基本核心思想跟道家，然后这个宗教等等是一致的，有三个层面的道存在。
Et pour ce qui est du taoïsme, on a en fait trois aspects du taoïsme. À la fois une philosophie qui a été fondée notamment par Lao Tzu, puis sa déclinaison en religion, notamment à la fin de la dynastie des Han, donc c'est plutôt à la fin, au IIe siècle après Jésus-Christ. en tant que religion plus que véritablement philosophie. Et puis un troisième aspect qui est celui de la religion populaire avec l'existence de temples taoïstes et de divinités taoïstes en Chine.
Tao 这个本身的意思，道就是宇宙的终极真理，所以道家的思想本质上是我们个人要参透宇宙的真理，参透之后呢，就是我们这个人会肉身成圣，就白日飞仙，就是说我们的精神跟身体是一体的，当我们参透宇宙大道的时候，我们整个人会脱离你现在所处的这个凡世，到了更高一层的世界之上，上面的世界是什么样子的，没有人知道，但是我们此生唯一的努力就是要修行，超脱这个世界，然后身体跟灵魂一起上去。
Alors la question du taoïsme et le concept qui est donc le concept clé du taoïsme, Dao, qu'on traduit parfois par voie, chemin, mais ce qui n'est pas toujours forcément correct en fonction du contexte, c'est l'idée selon laquelle donc le Dao est la manière dont est régi l'univers. C'est la manière dont l'univers fonctionne. Et pour les taoïstes, nous ne sommes que partie de ce grand univers, donc le corps en fait n'est pas grand chose à l'échelle de la manière dont fonctionne l'univers, et les méditations, les prières taoïstes sont destinées à aller plus haut que notre propre condition corporelle.
至于道教呢，就是因为它诞生比较晚，它本质上是一个想走捷径的一种方法。比如说一个人他要通过自己的修炼达到了那个大道的程度是非常艰难的，道教提出了很多种捷径，就比如说我们有自然健身者会有很大的力气自己来健身啊，但是也有很多人是打类固醇的，他们在走捷径，道教等于是这样。比如说道教在历史上最著名的就是炼丹术，大家听过东方有神秘的炼丹术，你使用这个仙丹可以达到各种各样的功效，甚至上让你成仙，这个我们叫黄白之术，也叫丹道。炼丹呢，本质上是一种捷径，因为你本身的修行是不够成为神仙的，但是通过外界的这种丹药的力量可以让你成为更高一层的存在，就像刚才关说的徐福求药，就是因为秦始皇他不可能修炼到那种成仙的程度，所以他需要借助丹药的力量，这就是道教存在的意义，他为很多人提供了一种解决问题的方法。
Alors, il y a effectivement beaucoup de moyens dans le taoïsme pour atteindre cet état, pour se fondre véritablement dans le grand tout, des moyens qui sont de l'ordre de l'entraînement corporel, du retirement de la vie sociale et politique, mais aussi de la recherche, on en a parlé tout à l'heure avec l'empereur Qin Shi Huang, le premier empereur chinois, de passer par l'ingurgitation de médicaments, de plantes, dans la mesure où cela peut permettre d'accéder plus vite à cet état.
那么 道教跟民间的道家信仰对于身体跟灵魂的关系是怎么看的呢？通常我们认为，道教认为人的身体里面住着魂和魄，魂魄是两个分离的东西，人有三魂七魄，所谓三魂呢，就是人的上丹田、中丹田、下丹田各有一颗魂存在，这三个魂加起来组合成了人的灵魂的一部分，底下呢有七魄，七魄存在人的肺腑之中，掌管人的这个身体的运行，三魂七魄分阴阳，我们说阴跟阳的概念，魂是阳性的，魄是阴性的。
Même dans la représentation de l'esprit, on a parlé tout à l'heure de la binarité corps-esprit. La notion d'esprit, par exemple, en Chine, elle-même est binarisée en deux parties, avec ce qu'on appelle les trois runes et les sept po, qui sont en fait des conceptions aussi liées à la philosophie du yin et du yang. Les trois runes qui correspondent plutôt à la partie de l'esprit, de la morale, qui sont plutôt yang, et les po qui représentent plutôt la manière dont fonctionne le corps avec la question des fluides et des souffles, qui sont eux de nature yin.
在民间有一些小孩子小的时候，如果忽然有一天变得就是很呆滞木讷，大家会说你的魂魄丢了其中一个，然后会采用一些民间法术，比如说一碗米里面立一根筷子，然后烧纸这样的方式来召回你的魂魄，让你魂魄完整，这样才能恢复你自己思考的能力。这是民间。
Alors, par exemple, dans les croyances populaires, si un enfant a des problèmes, a des difficultés ou a un comportement qui est pas forcément, qui correspond pas forcément à celui de la norme, on va dire qu'il a perdu un de ses runes ou un de ses pots, et donc on va faire appel, soit, alors le terme exorciste n'est pas forcément très bien approprié, mais en tout cas à des prêtres, à des chamans, à des prêtres taoïstes, qui vont nous permettre, à travers différentes méthodes, de retrouver le rune ou le pot perdu et retrouver son état mental original.
那么在道教的观点来看，魂魄能不能脱离身体存在呢？答案其实是不能的。道教认为，人死亡的刹那，首先你的魄，七魄是先飞散的，因为它是依托于你的内脏身体存在。当机能停止，所有的魄都飞散了。魂呢，因为有三魂，三魂分别是天地命。三魂在死亡的时候，天魂归天，其中有一魂是属于天的，它会上天。地魂归地，这个魂会回到大地。其中关于命这个魂有可能游离于你身体之外，但是这个魂呢，会变成我们的民间信仰另外一个概念，就是鬼，因为它是不完整的一个魂魄，它只能够干坏事，就不能以我们熟知的人类灵魂的形象存在了。这是中国人对它的看法。
Et en ce qui concerne la mort et la disparition ou la dispersion des runes et donc de l'esprit des esprits en question, on considère dans la religion taoïste que les runes meurent en même temps que le corps, en tout cas pour ce qui est des peaux par exemple, puisqu'ils contribuent à la vie des êtres humains. En revanche, pour ce qui est des runes, on en a parlé tout à l'heure, il y en a trois. Il y en a une qui est reliée au ciel, l'autre à la terre et l'autre... Alors voilà. Voilà, à ce qui est du domaine du souterrain. Pour ce qui est du rune du ciel, bah, il monte en même temps que le corps, donc il correspond un peu à l'âme qui va vivre dans le palais céleste. Celle de la terre va aller dans la terre, et celle du souterrain correspond souvent aux âmes errantes ou aux fantômes qui vont naître à partir du corps décédé.
所以中国现代的科幻作品里面，赛博朋克的作品不是主流，因为通常来说跟我们的就是这种民间信仰的东西有一点点抵触，因为赛博朋克通常是把你放在，就把你的意识抽出身体之外，进入一个虚拟空间，或者是就是缸中之脑的概念 ，brings in a world。
En réalité, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles le genre du cyberpunk n'est pas aussi populaire en Chine, aussi parce que ça crée une certaine opposition face à une représentation traditionnelle des corps, avec l'idée dans le cyberpunk que se trouve un état de conscience qui est devenu virtuel, numérique, et qui ne représente pas forcément ce qui est la tradition chinoise et la représentation du corps et de l'esprit chinois.
所以在传统中国人来看，这样游离出来的脱离身体的就是孤魂野鬼了，不算一个健全的人，所以他有一点传统文化跟现代的科幻小说类别的一点抵触。
Ouais, donc il y a des relations qui sont un peu contradictoires entre cette idée de l'esprit qui se sépare du corps qu'on retrouve dans la science-fiction. Alors peut-être en raison du temps, si certains parmi vous ou certaines parmi vous ont des questions, je pense qu'on peut voilà, se donner une petite dizaine de minutes.Pour discuter ensemble.
Bonjour. Est-ce qu'en Chine, on parle de paradis et enfer ou il y a d'autres thèmes pour évoquer le paradis ?
En Chine, il y a ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Il y a d'autres thèmes pour
évoquer le paradis et l'enfer. 分好几类吧，应该中国的天堂地狱还是分好几类吧，因为中国的宗教有比如说佛教啊，有道教，他们所谓的天堂地狱还是有差异的啊。但是我们中国应该讲有这个有玉皇大帝，就是他们属于道教的这个天堂，然后我们还有西方世界，就是这个神佛地狱也，但是而且中国的宗教很神奇在于它几个，比如说道教的系统跟佛教的系统还某种程度上是融合的，对，多神还是并存的啊，它有这个说法，当然有，而且是几个宗教混在一起的存在。
En réalité, il y a plusieurs représentations de l'enfer et du paradis. Étant donné qu'en Chine, on coexiste plusieurs religions, également la religion chrétienne aussi, la religion bouddhiste et la religion taoïste, qui ont toutes des manières différentes de percevoir l'idée de l'enfer et du paradis. Et certaines d'entre elles ont aussi fusionné dans le temps. Donc il y a des représentations taoïstes qui se retrouvent dans le bouddhiste et vice-versa. Peut-être ajouter quelques éléments pour ma part, mais après on donnera la parole à Zhang Ran. Vous avez par exemple dans l'enfer bouddhiste plusieurs strates, plusieurs niveaux de l'enfer, et qui correspondent aux différents crimes que vous avez pu commettre durant votre existence. Donc en fonction de votre crime, vous êtes envoyé dans l'enfer des chaudrons, où vous êtes trempé toute la journée dans un chaudron bouillant, l'enfer où on va vous écorcher vif en permanence. Voilà, donc différentes strates de l'enfer qui peuvent être représentées.
首先来说，道教系统是没有的，道教只有仙界，仙界是神仙住的地方，就是你超脱之后上去的另一层世界，不是凡人可以去的，也没有地狱，认为人死后灵魂是飞散的，对吧？他不会进入一个地方受罚。但是佛教系统是存在的，而且大部分中国人也相信佛教的天堂跟地狱。所谓天堂呢，就是我们在念佛的时候会念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，意思是我们死后会到西方极乐世界去，这个世界类似于天堂，里面都在享乐， 但是呢，通过因果，我们这辈子如果作孽做了很多坏事，我们会下到地狱，地狱有很多层，有根据你生前做的这种坏事会接受不同的惩罚，这跟但丁那些东西是其实是一致的。
Alors par exemple dans le taoïsme, il n'y a pas originellement la question de l'enfer, il y a simplement la question du havre des immortels, qui est donc une sorte de paradis où les personnes vont après la mort. Pour ce qui est du bouddhisme, il y a effectivement cette atteindre le nirvana, c'est aussi la fin, mettre fin au cycle de réincarnation, et qui peut s'atteindre de différentes manières selon les différents courants bouddhistes. Et comme on vient d'en parler, la question des différentes strates de l'enfer, qui en fonction, là encore on est dans le rapport de cause à effet, peut être différent selon les crimes que vous avez commis par le passé.
Oui. Bonjour, bienvenue en France, en Bretagne. D'ici une dizaine d'années, la Chine devrait être la première puissance mondiale en sciences, technologies, intelligence artificielle. Est-ce que la science-fiction chinoise accompagne ce mouvement, c'est-à-dire dans 10 ans, première puissance mondiale cognitive, la Chine. Merci.
那其实，在未来十年，中国可能应该会成为世界科技这一方面的最有权力的国家。那科幻文学本身是不是会，他怎么看，然后他怎么陪着或是批评这种趋势？
这个问题其实很大，在中国科幻历史上有过几次不同的改变。说久一点，说新中国的历史，1949年之后，一直到80年代之前，中国科幻一直是以一个正面的形象出现，它的作用是为科学普及工作做补充的，所以它一般展望的是正面的科技对人类造成的这种各种福祉，它的好的部分。在1983年以后，80年代初出现了一些批判性的科幻，导致中国的政府上层对这个情况有些不满，所以1983年的时候，中国展开了一场反毒草的一种清洗运动，在这个对精神污染，没错，导致中国科幻在很长一段时间之内是一蹶不振了，直到90年代重新再。
Alors, pour un premier élément, on peut peut-être revenir sur l'histoire de la science-fiction en Chine après 1949, donc date de la fondation de la République populaire de Chine. De 1949 jusque dans les années 80, la science-fiction, pour des raisons politiques, de propagande politique, a aussi été dans une certaine valorisation de la science et du progrès pour le bien de l'humanité. Donc, il a accompagné finalement la propagande politique autour de la science comme moyen d'accéder au bien-être de la population. Mais à partir des années 80, la science-fiction a commencé à se faire beaucoup plus critique, à la fois des politiques mises en place, mais aussi de la technologie, de la science de manière générale, ce qui a débouché en 1983 et 1984 à une campagne politique contre ce qui était appelé la pollution spirituelle. Dans cette pollution spirituelle, on entendait plusieurs choses, des œuvres d'art qui seraient originaires d'Occident, mais également la science-fiction, jugée à la fois bourgeoise, occidentale et non scientifique.
当代的中国科幻其实跟世界上大多数国家的科幻是接近的，以批判性的为主，但是中国科幻通常不批判社会本身，它批判的是技术，所以呢，通常对技术有一种反面的思考，对技术的警惕，这种主题居多。
Alors, la science-fiction chinoise, un peu comme la science-fiction de par le monde, est toujours une littérature critique, à la différence près, peut-être qu'en Chine, il est plus facile pour un écrivain de science-fiction de critiquer la technologie en elle-même que la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Bonjour. Déjà, merci d'être là. Je trouve ça très enrichissant. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une place du corps animal dans la science-fiction chinoise ? Est-ce qu'on lui reconnaît à l'animal une individualité ? Merci.
那在中国的科幻小说、科幻文学中或是艺术中，有没有动物的位置？然后，动物在这个中国科幻小说中的想象为何？如何？
我觉得这个可以请胡特讲一下，因为他给我看了他好多的这个创作中都是把中国的传统文化跟动物做了很好的结合，非常漂亮啊，大家可以看一下。
Donc on peut demander à Fordrou Houte de répondre à cette question, parce que justement une grande partie de ses œuvres ont pour objet la représentation de l'animal et notamment de l'animal mythologique dans son travail. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les images que je vous ai mis dans le diaporama où c'est plutôt des corps humains. Mais voilà, Houte peut peut-être répondre à cette question.
其实很多啊，如果从中国传统文化中间讲各种中国的形象，比如说像雷震子，他就是一个鹰嘴， 然后长着翅膀，然后是一个在天上可以拿着劈雷的一个神智，然后还有包括像佛教中八大菩萨，像包括我的作品中间有体现，比如说像文殊菩萨和他的坐骑，有狮子，然后有白象，还有大鹏鸟，其实中国人本来在他们传统文化中间就对于整个一最根本的就是要人和自然的和谐共生，所以动物这个东西实际上作为一种精神性的代表，你比如说像我们讲星座，为什么中国人是鼠牛虎兔龙蛇马羊这些东西，而不是什么天平或者是双子。
Ah, effectivement, énormément dans la représentation de la science-fiction, dans l'art visuel et plastique encore plus. Moi, j'ai travaillé, donc Fordrou, j'ai travaillé sur la question des animaux mythologiques, alors notamment l'éléphant blanc, le pran, qui est un immense oiseau dans la tradition taoïste, et dans cette représentation d'animaux qui ont chacun aussi une symbolique, notamment spirituelle. Toute la symbolique des animaux est extrêmement présente, alors que ce soit dans l'art, mais aussi dans la tradition chinoise. On parle par exemple pour les signes astrologiques chinois d'animaux et non de... alors même si dans les signes astrologiques occidentaux il est aussi question d'animaux pour certains. Voilà, donc l'animal en tant que tel reste encore très symbolique dans ce que ça représente en Chine.
And of course you know the Monkey King.
Évidemment, le roi singe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, au moins pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, par exemple, où on a une appropriation de cette légende d'origine chinoise du roi singe. Je crois qu'on a encore le temps pour une dernière question.
Alors, à l'instant, vous avez parlé des trois renais, des sept peaux. Je sais qu'on parle aussi de sept chakras. Est-ce qu'en fait, les peaux, c'est la même chose que les chakras ?
Oui, c'est la même chose, effectivement. Ah, peut-être juste, comme la question était courte, une dernière question et après, on devra quitter la scène.
Bonjour, est-ce que vous avez des écrits à nous proposer et est-ce que les écrits de M. Zhang Han ont été traduits en français ?
Zhang Han 的小说有没有被翻译成法文？Okay, je peux répondre pour lui. Alors, les récits de Zhang Han sont malheureusement encore inédits en français. Pour ceux que ça intéresse et qui lisent l'anglais, il y a des récits traduits en anglais, des nouvelles traduites en anglais, sur le site notamment, qui sont consultables en ligne, sur le site de Clark's World, qui est une revue de science-fiction américaine, qui propose, je crois, deux ou trois nouvelles de Zhang Han en traduction anglaise. Ou si vous lisez le chinois, c'est facile de les trouver sur Internet. Pour ce qui est de la science-fiction chinoise, je peux vous recommander donc, des récits qui ont été traduits récemment et publiés en français. La trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, qui est publiée chez Actes Sud. Un recueil de nouvelles aussi d'une auteure qui était là l'an dernier, une auteure chinoise de science-fiction qui s'appelle Hao Jingfang. L'insondable profondeur de la solitude, c'est publié chez Outre-Fleuve. Et puis vous avez aussi une science-fiction taïwanaise dont il n'a pas été question aujourd'hui, mais qui est une science-fiction de langue chinoise, avec par exemple Membrane de Ji Dawei, paru dans Livre de Poche, La guerre des bulles de Gao Yifang, traduit chez Mirobol. Donc en vous renseignant, voilà, il y a aussi un site internet que je peux vous conseiller pour ceux qui aimeraient un petit peu explorer la question de la science-fiction chinoise et de langue chinoise, qui est, je crois, SINO SF. Alors, je ne connais pas l'exacte adresse du site, mais vous pouvez chercher sur les moteurs de recherche. Et c'est un blog qui traite justement de la science-fiction chinoise et de son histoire. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence nombreuse et je pense qu'on peut applaudir les intervenants.
Merci.